je faisais la tournée avec la ministre Joly la semaine dernière, elle disait que s'il y avait autant de femmes que d'hommes entrepreneurs, que notre PIB pourrait augmenter de 80 milliards.
Mon nom est Antoine Gagnon et je vous souhaite la bienvenue au 45e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par J7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 1 million de dollars de publicité Facebook par mois, J7 Media aide depuis 8 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de J7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. L'entrepreneuriat au féminin a pris une place impressionnante dans le paysage québécois au cours des 10 dernières années. Selon une étude réalisée par la Fondation de l'entrepreneurship, les femmes avaient en 2019 une intention d'entreprendre 3 fois plus élevée que les hommes. Cette évolution impressionnante peut s'expliquer par plusieurs facteurs, mais force est de constater que l'apparition de femmes d'affaires à succès comme Danielle Henkel et Christine Germain dans l'émission « Dans l'œil du dragon » ont grandement aidé. Maintenant, une autre dame est également à créditer. Ruth Vachon, présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec depuis 2010, a instauré un bon nombre d'initiatives depuis 10 ans maintenant afin d'aider les femmes qui ont une intention à entreprendre à se lancer réellement. À mon grand plaisir, Madame Vachon a accepté de venir discuter avec nous aujourd'hui de l'entrepreneuriat chez les femmes. Sans plus attendre, ma discussion avec Ruth Vachon. Ruth Vachon, vous êtes la présidente et directrice générale du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Vous occupez ce poste depuis 2010 et préalablement dans votre carrière, vous avez bâti plusieurs organisations dans le secteur événementiel. Également, on vous voit impliqué dans diverses initiatives afin de stimuler l'entrepreneuriat au féminin. Ruth Vachon, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance.
C'est un plaisir. Merci de m'avoir invité.
Madame Vachon, l'objectif du podcast aujourd'hui est de parler de la belle croissance qui se déroule au niveau des femmes entrepreneurs. Cette envie de faire rayonner les femmes d'affaires du Québec vient du fait que vous êtes vous-même à la base une dirigeante d'entreprise. Et pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, pourriez-vous nous parler un petit peu de vos premières expériences en affaires afin de bien situer l'audience?
Oh, ça remonte à, je dirais, 30 ans. J'étais une fille qui était chez, dans ce temps-là, ça s'appelait Alcan au Saguenay. Et un jour, j'ai décidé que j'allais pas retourner chez Alcan en ne sachant pas trop ce que j'allais faire. Et quelqu'un m'a appelé pour m'offrir un travail, puis juste pour situer dans le temps, ça fait 35 ans. Alors, il y a 35 ans, je gagnais 35 000 par année. Quelqu'un m'appelle, j'étais en début de congé maternité, il me dit, quand tu vas finir ton congé, j'aimerais beaucoup t'embaucher. Alors, je t'offre 75 000. Oh, je vais te dire merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je lui ai dit, je vais prendre 2 semaines, puis au bout de 2 semaines, je te rappelle, puis je te donne ma réponse. Alors, 2 semaines plus tard, je l'ai rappelé, puis j'ai dit, écoute, j'ai pensé à ça. Si tu m'offres 75, c'est que je dois en valoir 150. Fait que je vais partir mon entreprise. Fait que finalement, je vais me retourner travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai fondé mon entreprise, puis j'ai toujours été extrêmement heureuse de mon choix. Je n'ai jamais remis en doute ou regretté de quelque façon que ce soit.
De ce que je comprends bien, votre expérience, on va dire, entrepreneuriale remonte à, c'est ça, peut-être à 30-35 ans. Puis, à partir de là, ça a été quoi, un petit peu la vision que vous avez prise au niveau de ça? Est-ce que vous avez dit dès le départ, moi, je m'en vais commercialiser mon entreprise moi-même? Est-ce que vous avez déjà bâti votre équipe au départ? Quelles ont été un petit peu les premières initiatives que vous avez prises?
D'un drôle de hasard, c'est parti d'un terrain qui était libre quelque part pour investir. J'ai acheté le terrain, puis bon an, mal an, on avait créé, mon conjoint de l'époque et certains employés, une entreprise pour les stimuler au travail, mais c'était fondamentalement pas des entrepreneurs. Alors, l'expérience n'avait pas l'air d'être très valorisante. Alors, un à un, j'ai racheté les actionnaires. Et c'est ça qui m'a amené à démarrer. Mais c'était... Toutes ces fêtes, on dirait, d'une façon intuitive, j'en ai acheté un. Puis quand j'ai eu fini de les acheter, mais c'était pas une grosse entreprise, alors j'ai dit, ben, tu sais, je vais en faire une vraie entreprise, et j'ai construit un gros édifice commercial. Alors j'étais une des rares à ce moment-là, il y a 35 ans, d'aller à la banque et de dire au directeur en face de moi, je viens de quitter mon emploi, j'aimerais ça avoir 350 000 et j'ai pas le goût de donner de caution.
C'est quoi que...
La réponse a pas été oui instantanée, là, mais c'était moi, et c'est encore moi d'ailleurs.
Mais là, j'imagine, il faut de la persuasion pour demander à un banquier...
Écoute, je me rappelle pas vraiment de tous mes éléments de persuasion, mais ça a dû fonctionner parce que j'ai eu 350 000 et je n'ai pas cautionné. Alors, ça a dû fonctionner.
OK, donc, déjà, dès le départ, vous avez une personnalité qui fonce. Vous reculez pas quand vous avez, on va dire comme ça, un banquier qui dit non. Hein, we don't take a no for an answer. Ça, j'adore ça. Et parlez-moi un petit peu de ça. Parce que là, aujourd'hui, on en a parlé. Vous êtes présidente du Réseau des femmes d'affaires du Québec. Ça fait 10 ans maintenant que vous occupez ce rôle-là. Vous avez fait sensiblement croître l'organisation. Mais entre 2020, ou plutôt 2010, quand vous avez commencé vraiment avec le Réseau des femmes d'affaires du Québec, et le fait que vous êtes pas retourné au travail et que vous avez lancé votre entreprise, y a-t-il eu des paliers de croissance intéressants, des petites anecdotes qu'on pourrait partager avec l'audience aujourd'hui avant de rentrer vraiment puis de parler du Réseau des femmes d'affaires du Québec?
À partir d'il y a 2010, là, quand je suis arrivée en 2010?
Ben avant 2010, disons toutes vos expériences un petit peu plus entrepreneuriales, est-ce que vous aviez des enjeux de croissance? Est-ce que vous avez vu, disons, à un certain point, à un moment donné, eu des décisions spécifiques à prendre, de dire je pivote mon... Bref, des anecdotes un petit peu de votre parcours entrepreneurial.
Je sais pas si ça s'appelle des anecdotes, là, mais j'ai eu un passage quand même, tu sais, parce que ma première entreprise était au Saguenay. Et au bout de 2 ans, je représentais 80% du chiffre d'affaires de mon principal fournisseur. Alors, je l'ai acheté. Ce fournisseur-là était à Montréal. Alors, j'avais le choix entre l'acheter ou le faire tomber. Alors, j'aime pas beaucoup les conflits. Alors, je me suis entendue avec lui et je l'ai acheté. Et ça a toujours été à peu près comme ça. L'entreprise était au Saguenay. Là, je me ramassais avec un centre de distribution qui était ici à Montréal. Alors, c'était difficile d'opérer les deux. Alors, j'étais associée avec mon conjoint dans l'autre entreprise. Alors, l'autre entreprise est restée dans le feu de la séparation. Je me suis ramassée avec le centre de distribution ici. Et c'était ici une entreprise où c'était très familial. Alors, c'était à peu près toute ma famille qui était les employés. Alors, je peux vous dire que c'est quand même une expérience qui marque, une expérience qui est très importante dans une vie. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut? Est-ce que c'est pas ça qu'on veut? Mais ça a été une expérience très enrichissante pour ce qui m'a conduit à aujourd'hui, collaboration entraide, là. Mais on dirait que c'était toujours d'une façon intuitive, la préparation de ce que j'étais en train de faire aujourd'hui.
OK, intéressant. Puis, je suis curieux, à l'époque, disons, il y a plusieurs années de ça, quand vous étiez dans vos organisations comme ça, est-ce que vous côtoyez, est-ce que vous étiez de près avec d'autres femmes entrepreneurs? Est-ce que c'était quelque chose que vous voyez tranquillement, pas vite, qui prenait de plus en plus d'impact, ou vous étiez encore peut-être une des seules dans votre milieu à prendre les initiatives entrepreneuriales?
Non, il y en avait quelques-unes parce que moi, le réseau dans lequel je suis maintenant est quand même un réseau de 40 ans. Et ce réseau-là, ça faisait pas longtemps qu'il était démarré, qu'il était très présent au Saguenay. Alors, je faisais partie du Réseau des femmes d'affaires du Québec au Saguenay. Et il y avait, est-ce que c'est beaucoup de femmes entrepreneurs? Pas tant, mais il y avait beaucoup de femmes d'affaires qui avaient le goût de contribuer à l'économie locale ou l'économie nationale. C'est ça qu'on voit un changement, il y en a énormément plus, mais je pense que, tu sais, quand tu fais un regard par en arrière, ce genre de réseau-là, que parfois tu te dis, je sais pas qu'est-ce que ça donne, mais en réalité, quand tu regardes un petit peu la situation par en arrière, tu t'aperçois que ça donne beaucoup plus que ce que tu aurais pensé. Parce que là, tu sais, tu me questionnes comme ça, puis je me dis, ben en fait, il y a beaucoup qui est parti de là, parce que ça fait que je me suis jamais sentie seule. Tu sais, moi, au bout de 2 ans, j'ai été obligée de créer l'autre entreprise à Montréal et j'avais quand même juste 2 années d'expérience. Alors, la première chose que j'ai faite en arrivant ici, c'était de communiquer avec le réseau des femmes d'affaires de la région de Montréal, d'entrer dans une cellule, de pouvoir être en lien avec des femmes. J'arrivais ici, ça faisait 2 fois que j'étais femme d'affaires de l'année, je connaissais tout le monde, mais ici, je connaissais personne. Alors, j'avais l'impression de recommencer ma vie à zéro. Alors, pour moi, ça a été... C'était plein de petits faits cocasses là, les uns les autres, mais qui ont quand même marqué ce qu'on devient aujourd'hui, ce que je suis devenue, en tout cas moi, aujourd'hui.
Très intéressant, fascinant même. Puis parlons-en de ça, le Réseau des femmes d'affaires du Québec, vous êtes présidente maintenant depuis 2010. Ça a été quoi le déclic qui vous a dit « moi, je veux diriger ce réseau-là, je sens que j'ai une valeur ajoutée, je sens que j'ai des idées qui peuvent vraiment stimuler le tout. » Quel a été le déclic ici?
En n'allant pas si loin que ça. C'est pas ça du tout que je pensais.
Oh.
Alors moi, j'étais pas très vieille dans ma tête là, et je prenais ma retraite. Alors en prenant ma retraite, je suis arrivée chez moi et je suis comme très active, mettons. Et j'ai trouvé que la retraite ne me laissait pas aussi active que j'aurais pensé ou m'amenait pas nécessairement dans des rôles que j'étais prête à jouer dans ce moment-là. Et je savais que cette dame-là voulait partir et elle attendait, parce que tu sais, c'est comme des bébés qu'on met au monde. Hein. Alors, tu veux laisser ton organisation, mais tu veux laisser ton organisation en ayant confiance que ça va perdurer dans le temps. Alors, quand on s'est rencontrés, c'était Nicole Baudouin qui était l'ancienne propriétaire, et elle m'a dit « Ah oui, t'es vraiment la femme. » Mais moi, j'ai un petit peu naïve dans ma tête, dans le sens que j'avais pas vu plus loin. On était supposés d'être 2 personnes à la tête. Et moi, j'étais celle parce que j'avais des compagnies d'événementiel, j'avais des limousines, j'avais tout ça. Tu sais, c'était vraiment relié à l'organisation des événements. Alors, dans ma tête, j'allais au réseau pour organiser des événements. Mais honnêtement, j'avais pas pensé plus loin que ça. Et c'était l'autre personne qui m'accompagnait, qui avait l'habitude de diriger des entreprises, qui allait prendre la tête, mais pour un concours de circonstances, c'est pas ça qui est arrivé. Alors, le lendemain, je me rappellerai toujours, parce que le lendemain de l'annonce, il y avait tellement de courriels dans ma boîte vocale que je pensais qu'il y avait un défaut. Et là, j'ai compris que ce que je venais faire, c'était pas nécessairement ce que j'avais pensé que j'allais faire. Et ça a continué comme ça. Alors, tu sais, j'arrivais dans une organisation qui avait 30 ans, qui était orienté vers plutôt des gestionnaires d'entreprise. Alors, pour moi, qui est un entrepreneur, puis je lève toujours les bras parce que j'ai rarement des manches qui viennent jusque-là parce que je suis toujours prête à relever mes manches. Alors, je regardais la situation, puis je vous dirais que c'était mes 6 premiers mois, là, c'était comprendre, écouter, agir. Mais c'était tellement important que je comprenne où est-ce que cette organisation-là était. Écouter les collègues de l'équipe qui étaient là, puis qui étaient là, elle, depuis 10 ans, 15 ans. Et après ça, me dire, mais qu'est-ce que je viens faire ici? Et on parlait de déclic, c'était un déclic. Puis je me rappellerai tout le temps, je voyais justement hier soir à la télévision Christine Saint-Pierre qui sortait son livre. C'était quelqu'un de son bureau qui m'a téléphoné puis qui m'a dit « Madame Saint-Pierre demande de vous appeler. Il y a une espèce d'initiative qui vient de partir au Canada. Ça s'appelle la diversité des fournisseurs et on pense que vous seriez la personne pour relever ça. » Mais tu sais, quand t'es un entrepreneur, t'es un peu dans ta bulle tout le temps. Il y a des choses qui t'échappent. Alors, mon réflexe à moi, c'était de dire diversité. Alors, il me dit, oui, les Autochtones, les minorités visibles et les femmes. Et dans ma tête de clown, ça a fait, toi, on devrait être pas pire. Je pense qu'on va s'essayer. Mais en fait, je comprenais pas vraiment ce que j'étais en train de dire. Mais là, je me suis mis à chercher. Et j'ai vu que cette initiative-là existait dans le monde pour les femmes entrepreneurs qui les amenait à dans une initiative où est-ce que les grandes entreprises essaient ou ont des programmes pour acheter des entreprises qui appartiennent à des femmes. Alors ça, ça a été mon déclic. Je me suis dit, ah, ça, ça me parle et ça, j'ai lu. Alors tout à coup, on venait de tourner le réseau en modèle économique plutôt qu'en modèle gestionnaire. Parce que, je veux dire, selon moi, quand on arrive dans une organisation, ben on fait transcender ce qu'on est. Et moi, je suis une femme entrepreneur, j'aime qu'on me parle d'économie, j'aime penser qu'on contribue à faire grandir les choses autant que la valeur monétaire. Alors, ça a été un changement de une transition dans la pensée, dans la façon de faire, mais ça, ça a été un moment, je dirais, comme extraordinaire. Parce que nous, on est un entrepreneur, c'est terrain, c'est application, c'est, oui, tu veux de la formation, mais à un moment donné, on va revenir de la formation, puis on va l'appliquer en quelque part. Alors, étant une femme entrepreneur, ben, je sais dans la tête des gens comment ça se passe, comment on est, comment on le vit. C'est un peu comme ça que j'ai vécu mon entrée, je vous dirais.
Je fais une petite parenthèse sur le podcast en cours afin de vous remercier tous et chacun qui nous écoutent. Vous êtes des milliers chaque mois à écouter Hypercroissance et ça me touche du fond du cœur. Également, si vous connaissez quelqu'un qui aurait sa place sur le podcast pour nous parler d'hypercroissance, je vous invite à m'écrire personnellement au email suivant agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, A commercial, J, le chiffre 7, média au singulier.com. Et ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. De retour à l'épisode en cours. Parlons un petit peu de cette croissance-là, de cette évolution-là, parce que je lisais un petit peu les statistiques puis on en discutait ensemble avant le début de l'enregistrement. L'an dernier, la Fondation de l'entrepreneurship sortait son sondage annuel, là, comme il fait à chaque année, et il y a une donnée qui était très intéressante, qu'on voyait qu'il y avait une intention d'entreprendre 3,1 fois plus élevée chez les femmes que chez les hommes. Puis selon vous, quels sont les facteurs qui font en sorte en ce moment que les femmes entrepreneurs en 2020, ou du moins les femmes, veulent autant entreprendre? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu un changement au Québec?
Ben, d'abord, c'est vrai que l'entrepreneuriat est en pleine croissance puis que l'arrivée des femmes y est pour quelque chose. Je faisais la tournée avec la ministre Joly la semaine dernière, puis disait que c'est s'il y avait autant de femmes que d'hommes qui entrepreneurs il y avait autant de femmes qu'il y avait de d'hommes entrepreneurs, je veux dire, que notre PIB pourrait augmenter de 80 milliards. Alors, il y a énormément d'initiatives, de différents programmes que les gouvernements ont mis sur place. Puis moi, je vois, par exemple, de notre côté, on a des programmes avec Desjardins, on a avec TD, on a avec Scotia, on a avec BDC, on a avec la Caisse de dépôt et placement. On en a, le secteur financier a commencé, je dirais, en premier à sauter dans le bain. Alors, on a toutes sortes de programmes pour accompagner les femmes plus directement puis les amener ailleurs. On a besoin aussi, puis on le demande de plus en plus, de modèles. Tu sais, on est à peu près toutes pareilles, mais on a beaucoup moins d'années entrepreneuriales que nos confrères. On a besoin de modèles. Cette année, nous, c'est la 20e année du prix Femmes d'affaires du Québec. Alors, tu as des modèles inspirants, mais tu as des modèles inspirants, puis je trouve important de le dire, atteignables. Tu n'as pas juste des « je suis rendu au top », alors tu en as des nouvelles, tu en as des petites, des moyennes, des grandes, mais à chaque niveau amène ces modèles qui sont là pour t'influencer. Puis qu'on dise n'importe quoi, c'est tellement utile. Nos jeunes comme nos moins jeunes, moi j'aime voir des femmes qui réussissent, j'aime entendre des femmes qui réussissent, j'aime l'histoire du succès, puis l'histoire du succès amène d'autres personnes à entrer dans le bain, à se dire, moi, c'est vrai. Mais la théorie du petit pas est aussi importante. Alors, au début, je voyais souvent, tu sais, on voit souvent les mêmes visages. sais, moi, je dirais quand je suis arrivée il y a 10 ans, il y a 4-5 visages qu'on voyait presque tout le temps, puis tu te dis, mais c'est un peu décourageant. Puis je me rappelle, on a créé le réseau des jeunes femmes d'affaires qui maintenant est rendu l'aile jeunesse du réseau des femmes d'affaires. Puis une des premières choses qu'elles m'avaient dit, les jeunes, ben, on veut voir si on a de la place ensemble. Et quand, après avoir fait un exercice, on s'est aperçu que oui, il y avait de la place avec nous. Et il y avait les demandes qu'il y avait à faire, là, c'était, nous, on veut rencontrer des modèles. On veut être mentoré, mais on veut rencontrer des modèles atteignables. Des femmes avec qui on va pouvoir parler, lesquelles on va pouvoir regarder puis dire, hey, je suis peut-être capable de me rendre là. Puis c'est drôle, hein, parce que nos jeunes, ce qu'ils avaient ajouté, il y avait quatre choses. Et la quatrième, c'était, est-ce que vous pouvez nous présenter des modèles équilibrés? Parce que tout ce qu'on entend, c'est l'équilibre n'existe pas. On dirait que le propos, c'est un petit peu atténué. Mais j'avoue qu'il y a 6-7 ans, on entendait énormément de femmes, entre autres, dire publiquement, l'équilibre, cherchez-le pas, il n'existe pas. Je pense qu'il doit y avoir une phrase un petit peu plus motivante pour inciter nos jeunes à embarquer ou emboîter le pas dans une carrière qu'ils ont le goût de prendre. Il y a aussi le gouvernement fédéral, tu sais, parce que le gouvernement fédéral, c'est le plus gros acheteur, hein, que t'as au pays. Alors, le gouvernement fédéral qui achète à l'heure actuelle 10% de ses achats sont faits auprès d'entreprises qui appartiennent à des femmes, et dans l'avant-dernier budget, ils ont annoncé l'intention de passer de 10 à 15%. Ça a l'air de rien, mais c'est beaucoup, 5%. Alors moi, je siège justement sur ce comité aviseur-là qui a le mandat de voir un petit peu comment, quelles seraient les initiatives qui pourraient nous aider à y arriver. C'est pas évident, hein? C'est tout que des machines à tourner, mais partout, je dirais, il y a de l'intention. Il y a de l'intention. Puis maintenant, ben, le défi, c'est que tu as 3,1 des femmes, trois fois plus de femmes qui ont l'intention de démarrer une entreprise. Alors, le défi, c'est de faire passer l'intention à l'action maintenant. Alors, c'est pour ça que toutes ces mesures-là, puis tout ce qui peut avantager les femmes ou les aider, tout simplement, à faire le saut, ben tout petit geste est important.
Effectivement. Puis je pense que c'est très intéressant. Vous le disiez, des modèles un petit peu plus atteignables. Et ça, c'est tellement vrai. Faut pas juste regarder les gens qui ont des entreprises de centaines de millions de dollars. Il y a des très belles entreprises par des femmes d'affaires que moi, j'ai eu la chance d'interviewer sur le podcast, qui ont des entreprises qui atteignent les 7 chiffres, qui sont proches, tout ça, puis qui racontent des super belles histoires. Et il y en a tellement. Et il y en a tellement. Puis moi, c'est un des objectifs d'en avoir davantage sur le podcast. Mais j'aimerais revenir sur un point qui a été intéressant. Vous avez parlé un petit peu des différentes phases qu'il y a eu au cours des dernières années, que peut-être qu'il n'y avait pas... Les gens disaient qu'à un certain point, cette égalité-là, cette parité-là, il l'aurait peut-être pas autant. Là, maintenant, ça change un petit peu. Moi, j'aimerais qu'on parle ensemble des derniers mois. Les derniers mois ont été excessivement turbulents pour hommes, femmes, individus, entreprises. Et vous, de votre côté, avec les gens que vous avez côtoyés, avec le réseau des femmes d'affaires du Québec, comment vous avez senti tout ça? Comment avez-vous senti votre audience, les gens dans le réseau? Comment ils ont réagi? Et qu'est-ce que vous avez été capable de faire pour les aider dans ces périodes de COVID-là qui sont assez exceptionnelles?
C'est vrai que c'est exceptionnel. Puis la période, tu sais, ça s'est fait un peu, pas sournoisement, mais... tranquillement, on dirait qu'on a de la misère à gérer le mot qu'on veut dire. Mais tu sais, c'est arrivé lentement et tout à coup, bang, tout est fait. Alors, même nous, moi, je me rappelle la réaction que j'ai eue. Je suis venue m'asseoir dans mon bureau, puis ça a dû durer comme 2 heures. Oh, qu'est-ce que je fais? Puis tu sais, dans toute situation, c'est tout le temps, c'est comme je vais porter mon masque, là, je vais recommencer à respirer, puis après ça, on verra. Tu sais, tu rassures les tiens, tu vois comment ça se passe avec tes employés, tu regardes un petit peu comment on va s'organiser. Tu sais, on pense à nous, on va penser au télétravail. Puis là, après ça, tu penses à ton agenda puis à ta boîte courriel qui a toujours 2000 courriels que tu n'as pas répondu. Puis là, tu te dis, je vais enfin avoir le temps de passer à travers tout ça. Puis là, tu te dis, ouh, attends un petit peu, j'ai des membres, moi, là. J'ai des membres qui ont probablement plus besoin que je les aide que de lire mes 2000 courriels qui n'ont pas été répondus encore, qui sont peut-être beaucoup moins urgents aujourd'hui qu'ils l'étaient hier. Alors, on a rapidement passé en mode écoute, on a organisé des webinaires, on a organisé une plateforme pour échanger, pour venir déposer, j'ai le goût d'aider, j'aurais besoin d'eux, là. On a créé ces groupes de discussion-là d'entraide qui ont beaucoup aidé à nous faire une tête sur ce que les femmes voulaient vraiment. Alors, on a continué, nous, parce que notre spécialité à nous, c'est de créer des opportunités pour les femmes. Alors, on a essayé de les informer sur ce qui était urgent à ce moment-là. Et une chose qui m'a frappée, que j'ai trouvée extraordinaire, c'est que moi, tous mes partenaires me disaient, Ruth, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce qu'on peut? C'était de voir à quel point on a été capable de faire des partenariats improbables. Des gens qui se sont assis autour d'un webinaire et à dire, OK, on est tous des compétiteurs, mais on va amener la solution ou la situation ensemble. Et on va en discuter ensemble. Alors, c'est sûr que nous, ça nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Alors, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'on faisait, si le travail que j'avais, ce que je faisais hier, je le fais encore aujourd'hui, c'est que je suis pas en train de faire la bonne chose. Alors, comment je vais réadapter ou je vais adapter ma nouvelle façon de vivre, ma nouvelle réalité à ce qu'on veut? Mais reste que nous, on a la chance d'avoir une unicité. Alors, quand je regarde la situation où tout se passe en mode urgence, stabilisation, nous, on est, je dirais pas la seule, une des rares organisations terrain. Terrain qui veut dire, nous, là, quand tu nous parles de relance, ici, maintenant, on est prêt à prendre la relance. On est prêt, je devrais dire, à prendre la relance. Alors, depuis le mois de juin, en pleine pandémie, on a quand même été capable d'organiser plus de 400 rencontres de maillage entre les femmes entrepreneurs et les grandes entreprises. On a créé un groupe parce qu'on a beaucoup parlé de l'achat local. On a créé un groupe de grandes entreprises. Puis quand je dis grandes entreprises, là, c'est les Rio Tinto de ce monde, les Air Transat, EY, la Coop Fédérée, des entreprises, là, Ville de Laval, Ville de Rouge, des gens qui ont un potentiel d'achat hyper intéressant. On a réuni ces gens-là, on a ensemble, on avait une vingtaine, ensemble, on a monté un répertoire où on a établi le nom des femmes entrepreneurs qui avaient des produits sanitaires à vendre. Et en 10 jours, on a ramassé plus de 30 appels d'offres où 65 femmes entrepreneurs ont été capables de répondre. Alors, sur le terrain, c'est du concret, ici, maintenant. C'est-à-dire quand les gens me disent, qu'est-ce qu'on peut faire pour être capable de continuer? Ben moi, je dis, merci quand même, le gouvernement nous aide énormément. Un jour, non seulement on devra rembourser, mais on devra aussi faire la transition sur le nouveau maintenant. Et si on a une bonne portion des entreprises qui sont déjà en mode relance et en mode on est parti, ça va faciliter le passage, ça va faciliter les femmes à la nouvelle réalité.
Intéressant, intéressant. Madame Vachon, vous inspirez beaucoup de femmes d'affaires au Québec dans vos démarches, dans les initiatives que vous venez de mentionner. Mais vous, personnellement, qui vous inspire? Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des contenus que vous lisez, que vous consommez pour vous garder à jour, pour trouver des nouvelles idées? C'est toujours un volet que je trouve intéressant de poser, là, des questions de plus personnelles au niveau du contenu que les entrepreneurs vont regarder.
Je sais pas si vous allez aimer ma réponse, par exemple. Mais je travaille à peu près 12-14 heures par jour. Puis j'ai pas beaucoup de temps de lecture. Moi, là, j'ai l'avantage et l'honneur de rencontrer des gens extraordinaires à tous les jours. Puis, ben franchement, c'est eux autres qui m'inspirent. Ils ont pas écrit de livres, mais ils ont des paroles qui sont tellement précieuses à mes yeux puis à mes oreilles qu'ils sont la lecture que je n'ai pas le temps de faire.
OK. Intéressant. Très... Ben, dans ce cas-là...
C'est pas ça qu'on s'attendait comme réponse.
Mais c'est une bonne réponse. Mais vous avez dit une autre chose. Vous travaillez 12 à 14 heures par jour. Et je côtoie des gens qui ont des charges de travail aussi, des fois, qui se donnent une charge de travail autant intense que ça. Et pour y arriver, souvent, ils ont des routines. Ils ont des manières de procéder pour essayer de se garder vraiment concentré, en forme. Est-ce que vous avez des petits trucs, des petits secrets à nous partager aujourd'hui pour dire « Je continue à travailler 12 à 14 heures par jour. Il faut que j'aille une manière de procéder, là. »
Ben, c'est mon secret. D'abord, je déteste la routine. Je me lève le matin en me disant « Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui que j'ai pas fait hier? » Moi, j'aime ce qui est nouveau, je m'ennuie dans la routine. Mais j'en ai une toute petite, que t'es tellement jeune que tu sauras même pas de quoi je parle. Je fais à tous les matins la technique Nado. Et là, ceux qui ont mon âge, aujourd'hui, je te vois que tu ne sais pas de quoi je parle. C'est une espèce de technique de gymnastique douce qui se compare un peu au yoga, mais c'est ce qui active un peu tout ton système à tous les matins. Bon, c'est pas long, là, on parle de 15-20 minutes, là, mais ça fait une très, 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 très grande différence. Mais quand les gens me font la face que tu me fais, je comprends l'âge des gens. Parce que ça, ça a été créé en 1980. Je rencontre encore parfois des gens qui disent qu'ils font ça, là, c'est excellent. Alors, je sais que tu vas aller fouiller ce soir dans Google, Technique Nado. C'est super, les résultats sont bons.
Les résultats sont bons, bien merveilleux. Puis, Madame Vachon, vous avez dit là, puis ça serait peut-être là-dessus que j'aimerais terminer, vous avez dit tout à l'heure, il y a un ratio plus élevé de femmes qui ont un envie d'entreprendre, mais là, notre gros enjeu, notre défi, c'est de faire en sorte que ces mêmes dames-là passent maintenant à l'action. Et ça serait peut-être le petit mot de la fin. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces femmes-là en ce moment qui pensent à se lancer en affaires, mais qui peut-être, là, il leur manque le petit coup de motivation, la petite tape dans le dos avant de se lancer? Ça serait quoi, là, vos paroles à ces dames-là?
Cette parole-là, c'est la mienne. C'est l'achat de ta liberté. Puis je sais que ça amène ben des contraintes, mais il y a quand même pas une carrière qui n'amène pas de contraintes. Celle-là, je trouve que chaque petit moment que tu peux t'offrir est quasiment multiplié par 10. C'est la possibilité de bâtir ta vie de la façon que tu l'avais vue et de la créer à tous les jours de la façon que tu as le goût de la créer toi-même. Alors, t'es maître de ta vie aujourd'hui et maintenant.
C'est des très belles paroles, j'adore ça. Madame Vachon, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'est très enrichissant, fascinant de parler avec des femmes d'affaires du Québec, d'entendre leur opinion, d'entendre un petit peu qu'est-ce qui manque en ce moment pour stimuler encore plus de femmes d'affaires du Québec. Donc, merci beaucoup de votre temps. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode de Hypercroissance. J'espère que l'énergie et les succès de Ruth Vachon vont pousser les femmes qui écoutent Hypercroissance à se lancer en affaires. Également, je tiens à le mentionner, au cours de la prochaine année, je souhaite amener une parité dans le podcast en ayant autant de femmes entrepreneurs que d'hommes venant nous parler de leur parcours. Je vous invite donc à nous contacter personnellement si vous connaissez des femmes d'affaires qui auraient leur place sur le podcast. Mon email personnel est agang@j7media.com, donc A-G-A-G-N-E, @j7media.com. Et je le répète, ça me fera un énorme plaisir de discuter avec vous. Je termine en vous invitant à nous donner une note de 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme de podcast préférée et vos commentaires sont également très appréciés. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.